Si nous pouvons détecter des oscillations dans l'espace-temps depuis des temps plus anciens, alors nous pouvons commencer à aborder certaines de ces théories profondément fondamentales, comme par exemple, qu'est-ce qui a causé le Big Bang, l'inflation? Je voudrais donc commencer par vous demander ce qui vous a conduit à la recherche que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au trou noir? Vous savez, comment a débuté votre carrière? Vous savez, où est venu votre premier intérêt pour la science? Oui, eh bien, je suis techniquement un astrophysicien. Et ce qui m'a conduit à cela, je pense, c'est la physique. Vous savez, j'ai grandi, disons, avec une histoire plus religieuse sur ce qu'est le monde. Et en tant qu'adolescent, j'ai commencé à remettre en question certaines de ces choses. Cela a donc laissé des trous dans ma compréhension. Et je suppose qu'en tant qu'adolescent curieux, je me suis tourné vers différentes régions, mais c'était en ouvrant des livres sur l'espace, mais en fait, certains travaux d'Einstein. Où j'ai vu, oh, ça pourrait être ça. Cela pourrait être une voie. Et donc je me suis dit, très bien, je vais juste voir si je peux aller plus loin. Et ce que je pensais, c'était que j'irais à l'université, que j'y passerais quelques années, et que je me rendrais compte que c'était bien au-dessus de mes forces, ce qui était dans une certaine mesure le cas. Mais j'ai quand même réussi à tenir le coup. Et j'ai fini par faire de l'astrophysique, ce que je considère comme le type de physique le plus génial, vous savez, en partie parce que c'est très vaste, mais aussi parce que nous pouvons utiliser toute la physique dans l'étude de l'univers. Donc vous avez d'abord étudié la physique et quelle a été votre première interaction avec l'astrophysique? Pourquoi est-ce la partie la plus géniale du monde de la physique? Je veux dire, tout ce que vous savez, l'astrophysique est vraiment la physique de tout sauf de cette planète. Donc, vous pouvez vraiment appliquer tous les domaines différents, que ce soit, vous savez, la physique des plasmas, la mécanique quantique dont vous avez besoin, et, à la plus grande échelle, la physique de la cosmologie et de la relativité générale. Et tout cela est clairement cousu ensemble dans ce trou unique et cohérent quand vous pensez à l'univers à cette échelle. Bon, parlons un peu de vos recherches plus particulièrement. Vous travaillez sur les trous noirs. Quelle est pour vous la recherche la plus intéressante sur les trous noirs? Eh bien, les miennes, bien sûr. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai. C'est la plus intéressante pour moi, n'est-ce pas? Je veux dire, les trous noirs eux-mêmes sont sauvages. Ils sont, vous savez, ces endroits où l'espace et le temps sont comprimés. Et dans un sens, dans le trou noir, vous avez cet horizon des événements, l'horizon incontournable où le temps se fige et dans un sens, il représente une véritable limite à notre univers et tout ce qui est à l'intérieur n'est pas dans notre univers. Donc, philosophiquement, c'est une chose très étrange à laquelle penser. Ils ne sont pas matériels au sens où nous pensons normalement aux choses en science. Et donc, vous savez, c'est un attrait. La façon dont je parle des trous noirs, c'est qu'on ne peut pas les voir, mais on peut voir leur effet sur leur environnement, ces champs gravitationnels intenses, et donc, vous savez, des trucs restent coincés en orbite autour des trous noirs et s'énergisent à des degrés extrêmes, et un exemple de cela est le quasar. Donc, c'est un cas où vous avez ce que nous appelons un trou noir supermassif. Ok, vous pourriez avoir une masse d'un million ou d'un milliard de soleils dans ce seul trou noir dans l'espace. Et chaque galaxie en a un, y compris la Voie lactée. Notre propre galaxie a un trou noir de 4 millions de masses solaires. Normalement, ils sont calmes, personne n'a besoin de s'inquiéter, mais de temps en temps, quelque chose arrive à la galaxie. Ainsi, le trou noir central commence à se nourrir, comme du gaz qui est poussé à l'intérieur. Puis vous obtenez ce tourbillon de plasma qui se déverse dans le trou noir, mais en chemin, il devient très chaud. Et brille à cause de cette chaleur et brille depuis les extrémités de l'univers. Donc nous voyons ces quasars. Littéralement jusqu'au début des temps. Nous voyons leur lumière qui voyage depuis presque toute l'ère de l'univers. Et donc, dans cette lumière, nous avons une sonde de l'histoire de l'univers, de la forme de l'univers. Ils sont, donc, ils sont en quelque sorte des sondes étranges de l'univers à la plus grande échelle. Et bien sûr, c'est intéressant d'essayer de comprendre les trous noirs eux-mêmes, ce que vous pouvez faire en regardant comment les choses tombent dedans. Oui, je veux dire, cela m'amène à ma prochaine question. Donc, l'une des choses intéressantes à propos des trous noirs, que vous venez d'évoquer, c'est que non seulement c'est, comme vous le dites, intéressant de comprendre comment ils fonctionnent, quel genre de choses déclenchent, l'alimentation, comme vous le dites, mais ils sont aussi un excellent outil pour réfléchir à la cosmologie, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous dire un peu ce que nous pouvons apprendre des trous noirs sur la cosmologie et sur les débuts de l'univers? Bien sûr. Alors, laissez-moi vous parler un peu de sur quoi je travaille en ce moment. Je suis intéressé par un cas où vous voyez ces quasars que j'ai mentionnés. Dans une configuration où vous avez une galaxie entière qui se trouve être parfaitement le long de votre ligne de vue. Vers ce trou noir. Et donc la théorie de la gravité d'Einstein, la relativité générale a prédit l'existence des trous noirs, mais prédit aussi que la masse courbe l'espace et modifie la forme de l'espace. Et donc cette galaxie massive agit comme une sorte de lentille. Vous avez donc de la lumière provenant de cet objet lointain, le quasar, courbé par la gravité de la galaxie intermédiaire vers nous. Et donc pour nous, ce que nous voyons n'est pas ce qui est là. Nous pouvons voir, par exemple, une galaxie avec plusieurs images du même quasar vues à travers différents chemins à travers l'espace. Ce sont donc des lentilles gravitationnelles et elles sont un laboratoire incroyable. Nous pouvons utiliser ce genre de miroir de la taille d'une galaxie supplémentaire sur notre télescope pour étudier les régions intérieures du quasar et en apprendre davantage sur les quasars et les trous noirs eux-mêmes. Mais nous pouvons également en apprendre davantage sur l'univers, car ces chemins traversent une grande partie de l'univers. Ok, les quasars à lentilles gravitationnelles les plus éloignées, leur lumière voyage jusqu'à nous depuis plusieurs milliards d'années et elle voyage à travers un univers en expansion. L'une des plus grandes questions dans le domaine en ce moment, pas seulement en astrophysique, mais en cosmologie, est la suivante. Pourquoi l'univers ne se dilate-t-il pas seulement, mais pourquoi cette expansion s'accélère-t-elle, n'est-ce pas? Ok. Nous avons donc cette chose appelée énergie noire qui provoque une expansion accélérée de l'univers. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire. Nous savons juste qu'elle est là. Et une partie de la difficulté à comprendre ce que c'était de mesurer l'effet exact. Donc les résultats actuels qui sont là sont en quelque sorte de deux types de résultats. L'une d'entre elles consiste à observer les étoiles qui explosent, les supernovae, ce qui nous permet de mesurer les distances jusqu'à une certaine distance. Et la supernova nous permet de suivre l'histoire de l'expansion de l'univers au cours des derniers milliards d'années. N'est-ce pas? L'autre chose que nous observons est la lumière de l'univers très primitif, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est cette rémanence du Big Bang. En l'étudiant, nous pouvons également obtenir une autre mesure de l'histoire de l'expansion ultérieure de l'univers. Donc, de ces deux principales façons de mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers, elles sont en conflit. Ainsi, les résultats de la supernova nous donnent un chiffre pour le taux d'expansion. Et le fond diffus cosmologique nous en donne un autre et ils sont proches mais pas assez proches. N'est-ce pas? Il y a donc un de ces groupes qui fait quelque chose de mal où l'histoire de l'expansion a changé d'une manière que nos modèles actuels de l'énergie noire ne comprennent pas. N'est-ce pas? Et donc une chose que nous voulons vraiment pouvoir faire est de cartographier cette histoire d'expansion. Cartographiez la vitesse à laquelle l'univers s'est agrandi et comment ce taux d'expansion a changé au cours du temps cosmique et obtenez un historique de ce changement. Parce que cette histoire pourrait vraiment nous dire ce que vous savez, elle pourrait nous dire ce qu'est l'énergie noire, mais elle pourrait au moins nous dire quelle famille de choses est l'énergie noire. C'est vrai, c'est vrai. Et donc cette lentille gravitationnelle, lorsque vous avez ces différents chemins à travers l'espace, vous pouvez les utiliser comme des règles essentiellement pour mesurer les distances et ainsi obtenir des tailles pour les univers à différentes étapes de son histoire. Et la façon dont nous faisons ce cercle, j'aimerais vous le dire si je peux. C'est que ces différents chemins que la lumière prend autour de la galaxie vers nous ont des longueurs légèrement différentes. D'accord? Ils ne sont pas parfaitement symétriques. Et si vous pouvez mesurer la différence de longueur, alors vous pouvez tout faire tomber ensemble. Vous pouvez obtenir la distance à la galaxie de lentilles, vous pouvez obtenir la distance au quasar. Il suffit de mesurer la longueur de ces chemins. Et vous pouvez le faire parce que ces sources lointaines, ces quasars, ne sont pas très stables. Ok? Nous parlons donc d'un tas de choses qui tombent sur un trou noir qui les alimente. Ce sont donc des choses énergétiques très violentes. La lumière fluctue alors que l'alimentation monte et descend. Qui sait ce qui se passe? Nous voyons donc ce genre de signal de fluctuation. Si vous vous souvenez de ces multiples images du même quasar, chacune fluctue et les fluctuations sont corrélées mais décalées dans le temps les unes par rapport aux autres. Ok. Si nous pouvons aligner ces corrélations, puis ces fluctuations, nous obtenons en fait les longueurs de ces chemins et nous pouvons obtenir cette mesure indépendante et, espérons-le, déterminer laquelle de ces équipes avait raison. C'est vrai, c'est vrai. Ou peut-être une troisième équipe qui reste à inventer. Exactement, c'est vrai. Passons maintenant à certains des travaux que vous avez effectués pour communiquer sur la recherche scientifique. Français parallèlement à vos propres recherches en tant que scientifique. Donc, la première question que j'ai est de savoir comment avez-vous trouvé la relation entre le fait d'être un scientifique chercheur, un astrophysicien et quelqu'un qui met beaucoup de soins et de travail à communiquer avec des personnes qui n'ont pas de formation formelle en tant que scientifique? Je veux dire, ces deux pratiques se sont-elles mutuellement informées? Est-ce qu'elles attirent parfois l'attention? Comment cela fonctionne-t-il? Oui, la réponse est oui. Ils font les deux, n'est-ce pas? Nous commencerons par le négatif. Je veux dire que tout d'abord, cela prend beaucoup de temps et... Donc la contrainte de temps est le problème le plus important. Vous savez que vous voulez faire un excellent travail dans les deux, mais... Il faut faire des concessions quelque part, donc je pense que je serais meilleur dans l'un ou l'autre si je ne faisais que l'un ou l'autre, n'est-ce pas? À certains égards, il était une fois où les gens qui passaient beaucoup de temps dans la communication scientifique étaient mal vus dans le milieu universitaire. Vous savez, par exemple, je pense que Carl Schön n'était pas très respecté dans son domaine de l'astrophysique et des sciences planétaires pour son travail de vulgarisation. Mais je pense aussi qu'il a en quelque sorte changé la donne, en particulier en astrophysique. Je pense que maintenant, beaucoup considèrent que c'est une chose honorable à faire. Et vous savez, c'est pourquoi il y a plus d'astronomes communicateurs scientifiques que n'importe quoi d'autre. Nous essayons tous de ressembler un peu plus à Calan. Mais il y a plus d'avantages que ça. Il y a quelque chose de vraiment précieux dans le fait d'élargir son champ de compréhension du monde et certainement de la science et des domaines scientifiques. Vous savez, je pense que la science est maintenant une entreprise hyper spécialisée pour faire des progrès et faire reculer les frontières de notre continent de connaissances désormais vaste. Il faut vraiment se lancer dans quelque chose d'extrêmement spécifique et cela se fait souvent au détriment d'une certaine envergure. Et c'est une erreur. Je pense qu'il y a tellement à gagner du dialogue entre les domaines. Et donc, vous savez, avec PBS SpaceM, nous avons maintenant fait plus de 300 épisodes et nous avons couvert une grande partie de la physique. Et, vous savez, je ne peux pas dire que je me souviens de tout ce dont nous avons parlé, mais il y a eu une sorte d'élargissement de ma perspective et je pense que cela aide ma science. Vous savez, je travaille maintenant sur certains domaines de la mécanique quantique, par exemple, sur lesquels je n'aurais jamais imaginé travailler auparavant. Et je me suis lancé dans des projets d'apprentissage automatique vraiment intéressants qui, je pense, ont également été aidés par le simple fait de voir qu'il y a tellement de dialogues croisés possibles entre. Ouais. Je veux dire, et aussi, je suppose, vous savez, une sorte de ressource qui change la donne et de pouvoir partager du contenu vidéo dans lequel vous avez investi beaucoup d'efforts, à travers le monde, n'est-ce pas? Je veux dire, comment avez-vous trouvé quelle est, quelle a été, à votre avis, la meilleure façon de s'engager dans ce travail de sensibilisation du public? Je veux dire que vous faites du travail vidéo, mais, comment avez-vous trouvé la rédaction de communication scientifique publique? Comment avez-vous trouvé la présentation en direct? Quelle est votre méthode préférée, selon vous? Vous savez, présenter en direct est plus amusant, n'est-ce pas? Parce que vous obtenez un retour immédiat et que vous vous engagez et que vous adorez le cours. Non, c'est plutôt comme les conversations que vous pouvez avoir après coup et le simple retour des visages des gens qui sont là. C'est en fait assez c'est une compétence que j'ai dû apprendre pour avoir l'air humain quand je parle à cet écran vide de la caméra en faisant semblant que je dois littéralement faire semblant que la caméra est quelqu'un que je connais et à qui je parle afin de ne pas être entièrement robotique. C'est délicat. Donc, le live est le meilleur. Vous savez, j'écris les scripts et donc j'ai en quelque sorte ce côté écriture et je pense que c'est mon meilleur moyen de faire sortir les idées, c'est par le biais du stylo. N'est-ce pas? Vous savez, ensuite je dis juste les mots qui Ok, bon, alors peut-être que nous devrions nous tourner vers une sorte de vision plus large du futur. Quel sera selon vous le prochain changement de paradigme en physique ou peut-être en astrophysique, en particulier la prochaine idée de théorie de la découverte qui va simplement changer la façon dont les gens pensent à ce qu'ils font? Donc, le prochain grand changement de paradigme en astrophysique. J'ai l'impression que nous avons eu une série de changements de paradigme en astrophysique récemment, y compris et peut-être principalement la première détection d'ondes gravitationnelles. Ok, cela a ouvert une nouvelle fenêtre massive et à mesure que nous nous améliorerons et que nous construirons le GISA, qui sera l'observatoire spatial des ondes gravitationnelles, nous détecterons toute une nouvelle famille de phénomènes. Des choses comme ça peuvent nous aider à repousser notre vision vers des temps de plus en plus anciens qui sont actuellement limités. Actuellement, les télescopes que nous construisons peuvent voir jusqu'à environ 400 000 ans après le Big Bang. Avant cela, l'univers était opaque à la lumière et nous ne pouvons pas. Vous savez, c'est comme s'il y avait une brique, mais pas aux ondes gravitationnelles. Et donc, si nous pouvons détecter des ondulations dans l'espace-temps des temps plus anciens, alors nous pourrons commencer à comprendre certaines de ces théories profondément fondamentales comme ce qui a causé le Big Bang, l'inflation a-t-elle eu lieu, toutes ces choses merveilleuses. Donc, c'est un côté. L'autre chose en astrophysique qui va changer le monde d'une manière qui trouvera un écho plus grand auprès du citoyen moyen, c'est quand nous apprendrons à voir les atmosphères de planètes semblables à la Terre autour d'autres étoiles. N'est-ce pas? Et nous savons comment le faire. Ok, nous savons comment construire le type de télescope interométrique dans l'espace, qui sera capable de détecter les signatures chimiques autour des planètes autour d'autres étoiles. Cela peut paraître technique, mais ce que vous voyez, c'est si ces planètes ont des biosphères. Donc, la première détection de vie se fera lorsque nous apprendrons à voir ces planètes et que nous saurons comment le faire. Nous devons simplement dépenser de l'argent et vous savez que cela se produira, espérons-le, de notre vivant. Mais lorsque nous découvrirons pour la toute première fois qu'une autre planète de notre galaxie abrite de la vie, cela changera complètement la donne. Cela changera toute notre façon de penser sur l'abondance de la vie et le caractère unique de l'humanité, etc. Ouais, eh bien, non, ce serait un changement radical. Je veux dire, en parlant de dépenser de l'argent, si vous aviez un financement totalement illimité, je veux dire, peut-être que vous venez de répondre à cette question. À quoi choisiriez-vous de le dépenser comme expérience de physique ou comme vous savez, comme un projet pour une partie de certaines recherches? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je le ferai, vous savez, ce n'est même pas mon domaine direct, mais je pense que c'est plus important. N'est-ce pas? Je pense qu'il est important pour nous de comprendre quelle est notre place dans l'univers. C'est bien de comprendre ce qu'est l'univers, comment il a commencé. Ouais. Etc. Mais comprendre ce que nous sommes dans l'univers, c'est juste que je veux dire que cela pourrait sauver notre espèce pour développer notre perspective globale de cette façon. Donc, développer ces réseaux de télescopes orbitaux de détection d'atmosphère serait la première chose que vous avez dit, des fonds illimités, c'est par là que je commencerai. C'est par là que vous commencez, ok. Ensuite, je construirai des sondes pour y aller. Ouais, brillant. Et donc, vous avez dit que vous pouvez déjà, en tant que question technique, construire tout l'équipement. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ce genre de recherche en ce moment? Le Congrès. Vous savez, la politique. C'est politique, le montant d'argent qui peut être dépensé par la NASA ou l'ISS ou qui que ce soit. Mais je veux dire que nous faisons des progrès, nous le sommes, donc le télescope James Webb Space peut le faire. Mais pas pour ce que nous appelons les planètes telluriques, pas encore pour les planètes semblables à la Terre. Il peut le faire pour les plus gros qui sont moins susceptibles d'avoir ce que nous appelons des biosignatures dans leur atmosphère. Je veux dire, avec toute science, c'est toujours, vous savez, vous faites des petits pas, vous faites des preuves de concept. Et donc, le Webb est une preuve de concept à cet égard, mais c'est aussi un télescope généraliste. Il n'est pas spécifiquement conçu pour faire ça, d'accord. Et donc en ce moment, ce qui fait obstacle, c'est juste la volonté collective, la volonté politique. D'accord, ouais. Brillant. Et donc pour notre dernière question, sur quoi travaillez-vous en ce moment pour votre communication publique? Sur quel type de contenu travaillez-vous en ce moment? Je travaille donc avec les studios numériques de PBS, en particulier sur une émission YouTube qui s'appelle PBS SpaceM. Et elle sort, Je pense que nous en sortons 3 par mois officiellement, un peu, vous savez, la plupart des semaines. Ouais, et c'est une émission courte. C'est comme, vous savez, 10 à 12 minutes où nous abordons différents sujets de physique. Ok. Nous avons commencé avec l'espace, mais maintenant nous faisons toute la physique et nous pensons que ce qui fait notre renommée, si. Nous avons un truc, c'est que nous n'avons pas peur de creuser en profondeur, n'est-ce pas? Et c'était un risque, vous savez, parce que je pense que la sagesse standard est bonne. Tout doit être super accessible à tous ceux qui l'écoutent. Mais nous avons découvert que notre public est en fait, je pense que beaucoup ou la plupart des gens ont vraiment faim d'un morceau plus profond pour avoir le sentiment qu'on ne leur parle pas de haut. Les gens sont très sensibles à cela. C'est vrai. Et nous sommes également patients si vous savez quand les choses deviennent un peu techniques, tant que vous n'êtes pas, vous savez, trop technique, je pense que vous pouvez, donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Tant qu'ils sentent que vous prenez le temps de vous intéresser à la technicité dans un souci de communication et d'éducation et non pas simplement pour occulter le monde dont ils font partie. Ouais, et vous savez, il y a des limites à ce que l'on peut tirer d'une vidéo YouTube de 10 minutes. Nous ne pouvons pas expliquer la théorie des cordes, mais nous pouvons donner aux gens une idée plus concrète de ce qu'est la théorie des cordes. Et nous considérons ces programmes comme des graines, comme des points de départ pour les curieux. Ouais, brillant. Bon, je pense que c'est tout ce que nous avons le temps de faire, mais Matt, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir absolu. C'est merveilleux d'être ici. Brillant, merci.